Le journal avec vous, Laurence Thomas, bonjour.
Bonjour.
Dans l'actualité de ce mardi, l'Afghanistan aux mains des talibans et l'allocution d'Emmanuel Macron hier soir. Priorité au pluriel, évacuer au plus vite les Français, empêcher l'Afghanistan de devenir le sanctuaire des terroristes et se protéger contre les flux migratoires à venir. Dans le reste de l'actualité, Laurence.
Nous irons en Haïti où le bilan s'alourdit 3 jours après le tremblement de terre. La vaccination obligatoire dans 1 mois du personnel soignant. Elle se fait pour certains dans la douleur, inquiétude et angoisse. Illustration dans ce journal dans un EHPAD. Incendie dramatique dans le Var autour de Gonfaron, nous ferons le point sur place. Et puis attention au moustique tigre, il est bien installé désormais sur notre territoire. La Charente-Maritime met en place des pièges.
Les invités de la matinale, on reviendra sur le chaos en Haïti avec Didier Lebray, ancien ambassadeur de France, à 7h45 dans 3/4. Et puis dans le grand entretien à 8h20, le professeur Antoine Pellissolo, psychiatre, chef de service au CHU Henri Mondor de Créteil. 1 an et demi de crise sanitaire, quelles conséquences psychologiques? Vous avez des séquelles après avoir été contaminé. Votre ado a dévissé ces derniers mois, comme beaucoup de jeunes et de très jeunes. Appelez-nous, venez témoigner. On vous attend, le standard est ouvert. 01 45 24 7000 ou sur l'appli France Inter.
France Inter.
Chaos à Kaboul, des hommes et des femmes agglutinés sur l'aile d'un avion de l'US Air Force, image poignante et choquante d'un sauve-qui-peut de la population afghane après l'entrée des talibans dans Kaboul, en Afghanistan. Dans son allocution d'une dizaine de minutes hier soir, Emmanuel Macron a tenté d'apporter des réponses aux interrogations des Français. Il a rappelé le sens de l'intervention occidentale dans ce pays et a adressé un message au pays partenaire. Bertrand Galichi.
Un tournant historique est à l'œuvre en Afghanistan avec des conséquences majeures pour l'ensemble de la communauté internationale, l'Europe et la France, prévient Emmanuel Macron quelques heures après l'arrivée au pouvoir des talibans à Kaboul.
L'Afghanistan ne doit pas redevenir le sanctuaire du terrorisme qu'il a été. C'est un enjeu pour la paix contre un ennemi commun, le terrorisme et ceux qui le soutiennent.
Dans cette mise en garde aux talibans, le président plaide pour une coopération sécuritaire efficace entre l'Europe, les États-Unis et la Russie, rendant hommage aux soldats français qui ont servi en Afghanistan. Emmanuel Macron souligne que c'est l'honneur de la France de s'être engagée dans ce combat, dont il rappelle l'objectif.
Nos interventions militaires n'ont pas vocation, en effet, à se substituer à la souveraineté des peuples, mais à défendre la stabilité internationale et notre sécurité.
L'urgence absolue est de mettre en sécurité les Français et les employés afghans menacés, dit-il, mais la question des migrations se pose.
Nous devons anticiper et nous protéger contre des flux migratoires irréguliers importants qui mettraient en danger ceux qui les empruntent et nourriraient les trafics de toute nature.
Emmanuel Macron qui promet une initiative avec l'Allemagne et d'autres pays européens pour une réponse unie.
Bertrand Galichi, contenir l'afflux de migrants afghans. La Turquie, elle a choisi une solution radicale. Elle a démarré il y a plusieurs semaines déjà la construction d'un mur à la frontière avec l'Iran. Après les Syriens en 2015, Ankara redoute une arrivée massive d'afghans. Mais au lendemain de la chute de Kaboul, c'est la peur et la panique d'une population donc qui cherche à fuir. L'évacuation des diplomates, des étrangers et des afghans ayant travaillé pour les occidentaux s'organise dans des conditions très difficiles. Dizaines d'Afghans qui ont servi d'interprètes pour les soldats français sont bloqués chez eux. Ils sont sans visa et très inquiets pour leur sécurité. C'est le cas de cet homme, joint par Franck Mathevon.
Mohamed Ayan Omid l'admet, son français est aujourd'hui un peu rouillé.
J'ai travaillé pour l'armée française comme interprète.
C'était en 2011-2012. Mohamed a passé alors une année aux côtés des troupes françaises dans la région de Kandahar, dans le sud du pays. Aujourd'hui, il vit reclus chez lui à Kaboul avec sa femme et ses 2 enfants. Il sait ce que les talibans pensent de ceux qui, comme lui, ont à un moment gagné leur vie en travaillant pour les occidentaux.
À personne qui travaille pour les étrangers, ils sont les espions. Ils sont comme un soldat français. Les talibans, ils sont très très dangereux. Ils vont tuer tout de suite, nous.
Mohamed a fait une demande de visa à la France il y a plusieurs mois, mais la réponse se fait attendre. Il implore le président Macron.
Nous demandons au président Emmanuel Macron de nous accorder un visa à moi et ma famille pour quitter le pays et échapper aux talibans. Nous sommes en danger.
D'après cet ancien interprète, au moins 70 personnes sont aujourd'hui dans une situation comparable à la sienne, bloquées en Afghanistan, à la merci des talibans.
Franck Mathevon.
1419 morts, près de 7000 blessés, 37 000 habitations détruites.
Après le séisme de samedi, maintenant une dépression tropicale, Grace, qui fait planer le risque d'inondation et de glissement de terrain en Haïti. Et le long de la côte sud du pays, beaucoup de bâtiments construits en béton se sont effondrés. Ainsi, dans la commune des Anglais, l'église qui faisait la fierté liberté des habitants a été ravagée par la forte secousse de samedi. Les victimes sont très jeunes. Reportage d'Amélie Baron.
Samedi matin, le père Wilson Exantus Antoine venait de finir de célébrer la première messe de la journée, celle de 6h30. Avant de retourner pour célébrer les baptêmes, il était allé prendre un café au presbytère. C'est alors que le séisme a eu lieu. Avec son clocher en façade, l'église de l'Immaculée Conception des Anglais n'a pas résisté. Ce petit joyau architectural construit en 1907 est en ruine et le prêtre se désole du nombre conséquent de victimes recensées dans ce lieu de culte.
Il y a plein de monde qui était en bas de compte, mais heureusement, nous avons.
Beaucoup de personnes étaient sous les décombres, mais heureusement, nous avons une compagnie taïwanaise qui travaille à la construction d'un pont à l'entrée de la ville. On a immédiatement fait appel à eux et ils nous ont aidés avec la population à retirer beaucoup de gens des décombres. Malheureusement, nous avons 17 ou 18 personnes qui sont mortes dans l'église et ce sont une majorité d'enfants. La victime la plus âgée avait 24
ans. Sur la place, les habitants de la petite ville côtière devisent devant les ruines de leur église. Et comme à travers toute la zone affectée par le séisme, les uns et les autres se racontent où ils étaient lors de la secousse. Et chacun détaille aussi la liste de leurs proches qui ont été tués durant la catastrophe. Amélie Baron, aux Anglais, sur la côte sud d'Haïti, RFI pour France Inter.
7h06, c'est la principale information de la nuit, le Var face à ses premiers graves incendies de l'été.
4000 hectares brûlés depuis hier dans le massif des Maures, l'incendie n'est toujours pas maîtrisé, des centaines de pompiers assistés d'une dizaine d'avions sont sur place pour tenter de fixer ce feu très virulent attisé par le Mistral. Le point avec Fabien Ledu de France Bleu Provence.
Le feu a parcouru 4000 hectares. Il est parti de Gonfaron sur une aire d'autoroute. Il a été poussé par un vent extrêmement violent et il a progressé à une vitesse folle en direction du golfe de Saint-Tropez, à travers la plaine des Maures, à travers le massif des Maures. Il a donc traversé les communes de Lagarde-Fresnay, de La Molle, avant d'atteindre de l'autre côté Grimaud, Gassin, Cogolin. Il est arrivé aux portes de Sainte-Maxime. Les pompiers sont parvenus à éviter que cet incendie ne touche la Croix-Valmer et la commune de Cavalaire. 750 soldats du feu sont encore sur place. Plusieurs foyers restent actifs et notamment à la Lagarde-Fresnay et sur le golfe de Saint-Tropez. La violence de cet incendie, sa vitesse de propagation a surpris tout le monde et les pompiers ont d'abord dû mettre en sécurité des habitants qui étaient isolés dans leurs maisons, dans des hameaux, en pleine forêt. Des salles polyvalentes, des gymnases ont été ouverts cette nuit dans plusieurs communes pour accueillir des sinistrés. Et pour l'heure, on le précise, pour l'heure, on ne déplore aucune victime.
Fabien Ledu de France Bleu Provence. Les Canadairs avaient prévu de reprendre leurs opérations ce matin dès 7h. Et Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur est attendu sur place à Gonfaron cet après-midi. Dans un mois, les professionnels des hôpitaux, des cliniques ou encore des maisons de retraite devront justifier d'au moins une dose de vaccin et au 15 octobre, ils devront présenter un schéma vaccinal complet. Cette contrainte a permis d'accélérer la vaccination des soignants, notamment dans les EHPAD. Mais certains se font vacciner à contre-cœur. C'est le reportage d'Alice Cachaner.
C'est le cœur lourd et rancunier qu'Akima, aide-soignante depuis 26 ans, ira se faire vacciner.
C'est mon corps. Je dois dire non, j'ai pas envie. Et pourtant, pendant le Covid, j'ai travaillé. J'avais le Covid et j'ai travaillé. Et pourquoi maintenant on m'oblige de me faire vacciner pour pas contaminer nos aînés? Moi, je trouve que c'est pas logique.
Si la plupart des injections organisées par l'EHPAD se sont déroulées sereinement, il a aussi fallu gérer les réactions épidermiques de certains salariés.
C'est très perturbant pour ceux qui vaccinent.
Brigitte Fauveau, cadre supérieur de santé.
On a une infirmière qui est arrivée en disant « je dois le faire » et qui pleurait tout le temps de l'injection. Mais elle l'a fait. On est complètement désarmé. On a une infirmière actuellement qui nous a fait une crise de panique et on n'a pas pu du tout la vacciner.
Aujourd'hui, sur les 380 salariés du groupe hospitalier de Loos au Bourdin, seulement une dizaine refuse en bloc la vaccination. La directrice Séverine Labou craint des suspensions de contrats ou encore des arrêts maladie à partir du 15 septembre.
Les arrêts maladie pour syndrome anxio-dépressif peuvent effectivement être attribués. Si jamais on a trop d'absentéisme, ça nous désorganisera, ça met en péril l'ensemble des usagers du système de santé et médico-social.
Un absentéisme d'autant plus difficile à gérer que les EHPAD souffrent de grandes difficultés de recrutement.
Alice Cachaner.
Une autre piqûre, mais qui démange celle-là et qui peut surtout transmettre la dengue, Zika ou chikungunya. Année après année, le moustique tigre s'installe en France.
Originaire d'Asie, il s'est posé aujourd'hui dans le pays, dans 51 départements classés en vigilance rouge. C'est 9 de plus qu'en 2018. Ainsi, la Charente-Maritime lance un appel à la prudence. Il a été aperçu à Chaniers, Nieul-sur-Mer, Saint-Georges-d'Oléron ou encore Périgny. Anthropophile par nature, il est pratiquement impossible de s'en débarrasser une fois installé dans un département ou une commune. D'où ces pièges à moustiques tigres installés par le service départemental de démoustication. Démonstration à Nieul-sur-Mer avec Julien Morcelli.
caché dans un buisson, un petit seau rempli d'eau. C'est un piège à moustiques tigres posé par Christian Esmeraldi, agent du service départemental de démoustication.
C'est un seau avec un petit morceau de polystyrène où le moustique tigre va venir pondre ses œufs.
De 60 à 1000 œufs qui vont venir se nicher sur le petit bout de polystyrène.
Il va chercher un support et le polystyrène, vu qu'il flotte tout le temps, il n'y aura jamais d'éclosion.
Là, on a un deuxième piège.
Vous voyez tous les petits points noirs, là?
C'est minuscule.
C'est minuscule, oui. Si je les mets au contact de l'eau, je vais avoir une éclosion.
C'est pour éviter les éclosions que les agents posent ces pièges, d'autant que les pluies du mois de juillet ont favorisé leur prolifération, explique Sébastien Chouin, responsable du service des moustications.
C'est le cocktail explosif pour les moustiques, de l'eau comme on en a eu ces dernières semaines, et puis maintenant le retour du soleil et de la chaleur, donc eau plus chaleur, ça accélère le développement des larves.
Pour autant, ce n'est pas le moustique tigre en lui-même qui est dangereux.
À la base, c'est un moustique comme un autre, qui pique. Mais comme il est invasif, il peut créer des réactions éventuellement allergiques chez certaines personnes. Le problème essentiel avec ce moustique tigre, c'est le risque de transmission de maladies. Potentiellement, le moustique tigre peut transmettre une vingtaine de maladies, mais les plus connues sont la dengue, le chikungunya ou le Zika.
Depuis mai 2020, 3 enquêtes sanitaires ont été ouvertes par l'Agence régionale de santé pour des cas de dengue détectés en Charente-Maritime. À chaque fois, les patients positifs ont pu être isolés et leurs cas contacts prévenus à temps.
Julien Morcelli. Bob Dylan, poursuivi devant un tribunal de New York par une femme, elle affirme que le chanteur l'a agressée sexuellement il y a près de 60 ans quand elle était âgée de 12 ans. Il faut dire que l'État de New York permettait jusqu'au 14 août aux victimes d'abus sexuels de poursuivre leurs agresseurs présumés, quelle que soit la date à laquelle l'acte aurait été commis. Le montant des dommages et intérêts réclamés par cette femme ne sont pas connus.
Enfin, la vie de château pour des enfants de 6 à 12 ans qui ne sont pas partis en vacances.
Ou comment toucher du doigt l'histoire de France au moyen d'une chasse au trésor. Le château de Versailles organise des visites pour des groupes de jeunes d'Île-de-France. Ils étaient 3500 hier, ils seront aussi nombreux lundi prochain au château. Cyril Arnaud a suivi cette escapade historique du centre aéré de Gennevilliers.
Bonjour à toutes et à tous.
Début de la visite pour les enfants avec une histoire racontée par un comédien.
La lune brille encore dans le ciel lorsque Marie-Antoinette se réveille.
La reine a rêvé de plusieurs animaux que les jeunes vont devoir retrouver dans les peintures, sculptures et décors du château.
Non, ce n'est pas un cheval, un bélier. Et il est où le bélier ?
Six animaux à trouver dans 6 pièces.
Le coq, l'autruche. Et l'éléphant.
Au-delà de cette chasse au trésor, l'idée est bien sûr de rendre les lieux accessibles aux plus petits. Édouard, comédien.
Voir chaque chambre avec ses couleurs, ses différentes œuvres et essayer de repérer justement les petits détails.
Versailles, rien que pour les enfants, ça permet aussi de créer des souvenirs à certains qui ne partiront pas du tout de l'été. Denis Verdier-Magnot, directeur du développement culturel du château.
L'objectif, c'est de créer à la fois cet intérêt pour l'histoire, mais aussi effectivement de pouvoir raconter, comme c'est les petits camarades qui ont eu la chance de partir en vacances, et bien que nous, eux aussi sont allés une journée à Versailles s'amuser.
Et les enfants sont ravis, Inès, Edem et Kumba.
C'était beau, c'était bien.
Moi, j'ai tout adoré, les tableaux, les sculptures.
Et aussi la chambre de la princesse, le lit de la princesse.
Les enfants ont également découvert les jardins du château de Versailles, plus de 800 hectares, là encore, pour eux tout seuls.
Reportage de Cyril Arnaud.
Merci Laurence Thomas pour le journal Le Zoom dans une poignée de minutes. Cette semaine, on vous fait faire le tour du monde. Ce matin, visite d'une grande muraille en Afrique.